Terminé à faire cet ouvrage, c'était les 70 ans de l'appellation d'origine contrôlée Rosé d'Hérissé. En effet, c'est en 1947 que cette appellation a été obtenue par les vignerons et le village d'Hérissé, appellation tout à fait exceptionnelle, puisqu'en Champagne, il y a en fait cette appellation et l'appellation Champagne. Et que cette appellation, elle est à l'intérieur de l'appellation Champagne. Donc, quelque chose à la fois d'intrigant, quelque chose que nous connaissions un petit peu parce que nous avons déjà travaillé sur l'histoire de la Champagne et du vin de Champagne. Cela dit, quand on a commencé ce travail, on n'imaginait pas tout ce qu'on allait découvrir. On a donc découvert pas mal de choses et essayé de répondre à un certain nombre de questions qui nous-mêmes nous intriguaient. Pourquoi cette appellation? Comment se fait-il qu'être à l'intérieur de la Champagne il y a cette appellation et que les vignerons d'Hérissé qui sont parmi les plus grands acteurs du Champagne et une des, sinon la plus grande commune en termes de finage de toute la Champagne, pourquoi il y avait cette aventure du rosé d'Hérissé. Et donc, ce qu'on va vous présenter, c'est pas le bouquin dans son ensemble, mais un peu le fil de cette réflexion avec un certain nombre de propositions ou d'informations. Ensuite, on pourra discuter. Et puis, si vous voulez en savoir beaucoup plus, évidemment, vous pourrez toujours aller vous porter au livre, puisqu'on a amené quelques exemplaires ici. Donc, on s'est partagé le travail entre Claudine et moi-même. On a des compétences qui sont des compétences communes, mais aussi des compétences distinctes. Donc, ça vaut mieux. Hein. Comme ça, on ne se marche pas sur les pieds. Et d'autre part, on essaye de se compléter. Sur la période ancienne des origines historiques du rosé d'Hérissé, toute l'aventure de ce rosé jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, pour aller vite, c'est Claudine qui va vous faire une sorte, sinon un récit, un certain nombre d'ouvertures sur ces questions et sur les évolutions très contemporaines, la renaissance de ce vin. Sa situation aujourd'hui et la place des viticulteurs dans le dispositif, et bien c'est moi qui essaierai dans le temps qui me reste il me restera de dire quelques mots. Nous prenons un engagement commun, c'est-à-dire de faire un topo, un exposé d'une heure. C'est supportable. C'est supportable. Après, échange, discussion ensemble, comme je vous le propose. Voilà, Claudine.
Alors, pour l'ouverture, la carte de visite du rosé d'Hérissé et son acte de baptême, C'est l'avis donné par le Comité national des appellations d'origine en 1946. C'était le dossier fourni pour obtenir l'AOC. J'ai gardé la citation parce que je trouve que aucun communicant ne pourrait faire aussi bien de nos jours. C'était un avis d'expert. Notoriété très ancienne, c'est par là que je vais commencer, parce que ce rosé, il vient de loin, il vient du siècle de Louis XIV, quand même, et des vins colorés excellents, d'un type spécial que l'on ne retrouve nulle part ailleurs en France, rosé de grande classe, inimitable. Je pense que le CNAO n'a pas lu dans une boule de cristal, mais évidemment aujourd'hui, ce vin rosé, c'est son titre d'origine. Je reviendrai un petit peu sur l'appellation, enfin la dénomination de la couleur rosée, qui a changé de couleur depuis que le nom a été trouvé. Effectivement, franche, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est un vin original, disons même une curiosité, hein, une appellation microscopique infracommunale et qui n'est même pas utilisée à plein chaque année, puisqu'il y a une délimitation parcellaire de 350 hectares et il y a, bon an, mal an, en ce moment, 50 hectares qui sont exploités pour l'appellation. Donc ce vin, alors là, c'est inutile, ça c'était plutôt une carte, voilà, pour, pour extra-champenois, parce que pousser les ruisselets, mais ici on n'a pas besoin. Alors par contre, cette carte-là, elle vous sera plus chère, j'espère, enfin, en moins elle m'est très chère. C'est une carte des années 1780, donc qui montre un embryon du sud barois, et qu'on peut très bien dater, donc on est avant la départementalisation, donc avant la Révolution française, mais on est dans les années 1780, parce que la grande histoire... Oui, mais moi je ne sais pas comment ça. Donc vous voyez ici, entre...
Ça sert à rien.
Voilà, on va montre. Le grand chemin royal qui a été le désenclavement routier d'Hérissé, qui est l'actuelle route, donc qui double la laine, parce que jusque 1780 à la Trône, l'accès au Hérissé était extrêmement difficile. Donc là, vous avez une image incomplète, mais déjà bien. Donc, les arbres, c'est la forêt. Et vous avez une image de ce qui, déjà à l'époque, a pris le titre du pays des cinq vallées, c'est-à-dire la Seine, ses deux affluents rive gauche, la Laigne et la Sarce, ses deux affluents rive droite, l'Ours et l'Ars. Et cet ensemble des cinq vallées, c'est déjà une image courante à la fin du XVIIIe siècle, avec le développement de la géographie naturelle, guillemets, citation, et où l'image consacrée, c'est celle de la main, avec la Seine qui serait le majeur, et les deux affluents rive gauche, les deux affluents rive droite, qui seraient les autres sources de la main. Donc vous y voyez les bourgs qui sont murés, donc les trois rissés sont encore presque en entier muré, Bar-sur-Seine est muré, hein, vous avez le quadrilatère des murailles, Mussy est un bourg muré aussi, et donc là vous avez bien les trois rissés qui s'égrènent d'un bourg qu'on appelle de la laine. Alors ici c'est une carte tout à fait moderne qui sort du laboratoire de géographie de l'université de Dijon. Une carte en relief de la morphologie d'Hérissé, qui est ce pays, village pittoresque, c'est son placement, un village, un enchevêtrement de vallées et de vallons, avec ce relief, bon, ici, si intéressant. Donc on voit bien là, les grenades des trois lycées et quand même la construction qui font que maintenant ils sont quasiment reliés. C'est pas grave. Bon, et vous pouvez deviner en rose, les cartographes ont essayé de mettre en rose, les principales contrées, la Bourgogne a ses climats, et la Champagne méridionale a ses contrées. Alors, les principales contrées qui sont consacrées à l'appellation rosée, qui ont été recensées dans la délimitation parcellaire qui a eu lieu en 1948-1949, et qui sont une sélection des contrées des lycées, les coteaux les plus élevés, les plus tortus, les plus ensoleillés, situés en adroit, c'est-à-dire d'orientation sud-est, sud, sud-ouest. On continue. Alors voilà ici un des exemples de ces coteaux les plus pentus, les plus ensoleillés, c'est Dagonet, et je crois que Émilie connaît bien parce que la famille Morel a des parcelles en Dagonet. Donc vous voyez quand même la pente et donc les nécessités, les contraintes de culture qu'il faut pour.
Voilà.
Alors maintenant, la naissance du rosé. Le terme de rosé n'apparaît dans le dictionnaire qu'à la fin du XVIIe siècle. Alors, quand il apparaît dans le dictionnaire, ça veut dire qu'il est devenu un usage qui force l'entrée du dictionnaire. Mais, alors, on a pas mal d'écrits sur le vin, et donc, je pars de 1600, avec la dichotomie d'un côté des vins grossiers et de l'autre des vins fins délicats. Alors, du côté des vins grossiers, on a les vins rouges apparentés noirs, en somme, vins noirs issus de raisins noirs, a priori, c'est pas choquant. Vins noirs épais, gros vins de ménage, propre à gens de travail. Donc, le vin rouge, c'est pour. Oui, c'est pour ceux qui travaillent. Travailleurs de fruiterie. Et de l'autre, où sont les vins fins de l'État distingué, c'est du côté. Alors, aussi bien venant de raisins noirs, mais surtout de blancs, des vins blancs qui ont eu la grande faveur du Moyen-Âge, et la mémorable bataille des vins de 1224 raconte en je ne sais plus combien, 234 vers, le tournoi des vins blancs à la table de Philippe Auguste pour les classer et les hiérarchiser. Et. À égalité avec les vins blancs, les vins clairets, je vous ai mis les orthographes d'époque, qu'on appelle aussi paillets. Alors paillets renvoie à la couleur de la paille et renvoie à l'histoire des couleurs. Parce que Michel Pastoureau a créé l'histoire des couleurs au plan national et aussi international et il nous apprend que la perception sensorielle des couleurs mais aussi la signification symbolique des couleurs a changé au cours des âges. Et rose, jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, rose est une nuance de jaune. Donc, d'où l'image de paillet renvoyant à la couleur de la paille. On les appelle aussi rouge-lait ou fauve-lait, donc couleur fauve, hein, on est aussi du côté des jaunes et du feu. Donc je vous ai mis les orthographes d'origine aussi, de rubis oriental à œil de perdrix. Alors œil de perdrix, c'est une image un peu sophistiquée, je pense qui est faite pour les chasseurs, et qui, paraît-il, vient de l'époque romaine, et qui désignerait la couleur de l'œil de la perdrix agonisante. Oui, agonisante. Et tout en sachant que. Donc je dis vin fin délicat distingué blanc clairet, car on sait déjà faire, on traite différemment les raisins noirs, avec cette maxime donnée par Olivier de Serres, qu'on considère en France comme le père de l'agronomie, qui explique que le séjour dans la cuve est inventé pour la couleur. Et on verra développer cette image par la suite. Et donc on arrive, et les vins de Champagne, alors en tête, les vins produits dans les coteaux d'Aï, déjà, Aï est au sommet, alors, il n'est absolument pas question de vins effervescents qui n'ont pas encore paru sur les tables. Ce d'Aï, donc c'est un modèle, le premier rang, ils sont clairets ou fauvelets, délicats, c'est pourquoi les grands seigneurs en font grand cas. Donc ces vins clairets, fauvelets sont des vins grands seigneurs. Alors, le nuancier des vins s'enrichit au cours du XVIIe siècle, donc on a des nouveaux venus, le vin vermeil et le vin gris. Alors, vermeil connaît une sorte de renouveau et de promotion qui est valorisé par un poète libertin du règne de l'époque de Louis XIII. Ce vin, baille-moi donc de ce vin vermeil, c'est mon feu, mon sang et mon soleil. Et cette symbolique, donc là c'est la perception de la couleur, mais aussi la symbolique de la couleur, cette symbolique, elle est à la fois féminine. Depuis l'époque romaine, c'est la couleur des femmes, des jolies femmes, de leurs joues ou de leurs lèvres. Et c'est aussi une symbolique virile qui vient de la symbolique des blasons des chevaliers de la fin du Moyen-Âge. Donc je vous ai mis la citation, je vous laisse la lire. La première couleur est vermeille, comparée au feu, l'élément le plus brillant et le plus noble, associé au rubis, hein, donc c'était la couleur tout à l'heure rubis oriental. C'est pourquoi nul ne doit porter cette couleur s'il n'est noble, puissant seigneur et vaillant au combat. Donc le vin vermeil, c'est vraiment le vin grand seigneur. Alors c'est dans cette dans ce contexte que la Champagne crée la surprise, l'inédit et la prouesse technique, c'est faire du vin blanc avec des raisins noirs. C'est la raison pour laquelle on appelle le vin gris. Rien à voir avec les vins gris des sables d'aujourd'hui. Donc, un vin blanc qui surclasse les vins blancs parce qu'il ne jaunit pas et qu'il se conserve longtemps, vin de garde, et qui est, nous disent les premiers dictionnaires généraux de langue française, entre le blanc et le clairet. Donc, une nuance. Alors, d'où vient la prouesse? C'est une prouesse de vinificateur, une prouesse de vigneron. Elle vient du pressurage direct du vin noir, un pressurage délicat, pas une trop grande pression sur la main du pressoir, un pressurage fractionné, où on distingue première presse, deuxième presse et comment s'y taille, des raisins entiers, sans égrappage ni foulage, et qui sont aussi soumis à clarification. Hein, c'est l'invention des procédés de clarification à la colle de poisson pour les vins blancs et au blanc d'œuf pour les vins rouges. Et la prouesse tient aussi à la mise en bouteille qui permet la conservation et la garde. Et le modèle, c'est toujours le vin d'Aï, le vin le meilleur du monde, dit Dom Pérignon dans une lettre de 1694, lettre authentique qui désigne des vins gris tranquilles. Et en aucun cas, quel que soit le détournement qu'aient voulu faire les grandes maisons de Champagne d'Épernay, du vin effervescent. Alors, à quoi pouvait bien ressembler ce vin vermeil? Donc, j'ai pris le tableau, l'un des tableaux des frères Lenain, repas de paysans, 1642. Alors, ce tableau a fait couler, fait toujours couler beaucoup d'encre. Est-ce que c'est un tableau réaliste? Est-ce que c'est un tableau hautement symbolique et quasiment eucharistique? Je passe, mais d'après tout ce qu'on peut lire, ça ressemble, voilà à quoi ressemblait le vin vermeil qui, permettez-moi de le penser, ressemble furieusement à la couleur du rosé de l'Issy.
Voilà.
Alors, l'art de la couleur, et nous arrivons à la création, à l'enregistrement de la création du terme rosé dans les premiers dictionnaires généraux de langue française. Donc, le rosé, le terme est décalqué du latin. Je parle du latin du XVIIe siècle, c'est-à-dire c'est la langue internationale, la langue de communication internationale savante, aussi bien pour la littérature que la philosophie, que la physique, que, bon. Et donc ça vient du latin roseus égale couleur de rose, vin d'un rouge agréable et tirant sur la couleur du rouge, du bleu rose, pardon, rouge vif. Et c'est le dictionnaire de Furtière qui va faire date, parce qu'il va être recopié par tous ceux qui suivent, y compris le premier dictionnaire de l'Académie française, vin rosé qui est rouge et vermeil. Mais qui a aussi, c'est pour ça aussi c'était un peu un défi pour les peintres, c'est un vin rouge et vermeil qui a la transparence. Il a lié les deux. Et donc, pour les bourguignons, ce fut très exotique quand j'ai appris à quelques-uns d'entre eux que dans la littérature de l'époque, les vins de Rhône sont considérés comme des vins rosés. Et le vin de Chablis est considéré comme un vin païen. Et donc, à quoi tient, et donc l'art de la couleur s'est perfectionné, s'est peaufiné. Le vin du raisin noir se colore comme on veut. Ça, c'est dans les écrits d'un Rémois, qui a eu un grand succès, qui s'appelait Le spectacle de la nature, c'est la Bibluche. Et à quoi tient cet art de la couleur? Dans une maîtrise consommée de la cuvaison, du pressurage et de la clarification. Alors, ce qui est intéressant dans le terme de rosé, c'est un terme nouveau, mais il y a la différence de tout ce qu'on a vu auparavant, comme vermeil ou œil de perdrix ou autre, ne s'applique qu'au vin. Ça désigne exclusivement un vin. Adjectif masculin, comme ce qu'il y a dans cette phrase. Et ce vin rosé devient le vin de distinction par excellence et l'enjeu d'une nouvelle bataille des vins de l'époque moderne, entre la Champagne et la Bourgogne, entre 1650 et 1800 d'après.
Reprends ton souffle. Donc là, on va arriver à la bataille des vins.
Alors, la bataille
entre la
des
Champagne
vins,
je vais... et la Bourgogne, prends ton temps. Entre la Champagne et la Bourgogne, et vous avez remarqué que les Riceys sont à la frontière. Et voilà, et ça, ça, évidemment, ça explique pas mal de choses. Durable.
Alors, cette bataille des vins est une vraie bataille, mais pas une bataille en dentelle. Donc, le même Abbé Pluche note encore dans son ouvrage de la première moitié du XVIIIe siècle, les partisans du vin de Bourgogne et ceux du vin de Champagne forment deux factions dans l'État.
Pas de la rigolade.
Et encore au milieu du XVIIIe siècle, un ouvrage qui a été réédité jusqu'en 1870, hein, Menon, la science du maître d'hôtel cuisinier, qui a été un peu le prescripteur des normes du bon goût et de l'élégance de table. Les meilleurs vins que nous ayons en France sont ceux de Bourgogne et de Champagne. Ces deux provinces jalousent sur le chapitre de cette liqueur, veulent l'emporter tour à tour, l'une par sa couleur vermeille, l'autre par un montant de goût, c'est le goût qui monte au nez, qui plaît beaucoup. Et la bataille reste indécise jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, et Mercier, à la veille de la Révolution, qui était un observateur futé et fureteur, qui a écrit un tableau de Paris en une dizaine de volumes, donc il fréquente tous les lieux publics parisiens. Le vin rouge Champagne me paraît préférable au Bourgogne. Les avis sont partagés depuis longtemps, ma foi, au Champagne rouge.
Alors,
c'est dans cette bataille des vins, et même assez précocement, que se produit au Quintervient en Russie une option déterminée volontaire au vin rouge, à ce vin rosé, vermeil, qui est vraiment un geste volontariste, une option de qualité commerciale, et qui n'a rien à voir, par exemple, avec une reconstitution forcée due à des intempéries, comme l'a été le grand hiver de 1709, qui a détruit la quasi-totalité des vignobles français. Donc on a un document qui vient des archives de l'abbaye de Molène, et qui nous, à propos de la dîme, parce qu'il y avait la dîme dans les vignes aussi, et qui nous apprend que autour de 1674-1677, des vignes de gros plan au Rissé ont été arrachées pour... je vous ai mis la... Voilà. Les foulages répétés, les longues cuvaisons donnant des vins fort rouges, donc fort grossiers, ont été délaissés pour de très bons raisins, pour faire des vins délicats, alors la délicatesse c'est la distinction, et plus vendables, donc il y a bien une option commerciale. Alors, quels sont les modèles à la façon de ceux de Chablis, Tonnerre, Haï. Et une enquête des intendants au tout début du XVIIIe siècle nous apprend qu'au Rissé, on produit des vins bons et fins, fin égale délicat, de Pinot. Alors, dans un nuancier qui va du paillet. Donc, le paillet vient du pressurage direct. Et des vins rouges, on laisse cuver les raisins pendant 24 heures, ou plus ou moins, de ce qu'on veut leur donner de couleur. Donc, même si c'est, s'il y a cuvaison, il y a une courte cuvaison. Et donc, c'est l'essor de la production commerciale des risques de qualité. Et on estime que, milieu 18e siècle, ces rosés représentent à peu près entre moitié et deux tiers des expéditions. Et en 1790, on compte 20-25 marchands ou commissionnaires de vin au Rissé. On en compte 35 patentés en 1850. Et au Rissé sont produits des bons vins de pinot blanc, noir et gris, qui sont gris paillet et rosé et délicat. Et Jules Billot, né à Gilles-sur-Seine quand même, et grandi à Gilles-sur-Seine, où il a acquis l'amour de la vigne du vin, note déjà que les cuvées sont conduites, si ce vin se singularise et transforme sa couleur, les cuvées sont conduites au goût, et là, l'éminente vigneronne qui tient la caméra, vous expliquera ça sans doute beaucoup mieux. Mais en même temps, le 19e siècle connaît ce que la Chivère a appelé une offensive de la couleur et une déprise de la clientèle pour ces vins roses et délicats qui chutent dans la commercialisation du vin. Mais encore en 1900, l'illumination rosé des Rissés conserve quand même son usage et sa connaissance auprès d'amateurs fidèles. Alors, grâce à la collaboration active des vignerons des Rissés, on a pu retrouver des registres d'une de ces maisons de commerce de vin des Rissés. Et donc, voilà, je vous laisse lire la gamme des rosés qui est proposée à la clientèle en 1907 à la vente en gros. Donc on a toute une gamme du rosé Rissé ordinaire fait de gamay et gouet. Alors pour les vignerons qui connaissent, on a peut-être encore entendu cet adage. Alors le gouet, c'est un cépage grossier. C'est les espèces boissonnières, comme disait Jules Billot, équivaut dans la région l'adage qui a des bois, bois. C'est pas du grand. Alors, On a des passe-tout-bras faits d'ordinaire et de pinot. Alors évidemment, passe-tout-bras, c'est un marqueur bourguignon. Ça sent sa filiation bourguignonne. Et puis, au sommet des cotations et des prix de vente, le pinot rosé et le pinot rosé fleur de côte, qui était le top.
On peut dire que les fleurs de côte, ça correspond largement aux localisations qu'on vous a montrées au début, c'est-à-dire les meilleurs coteaux. Et si vous prenez une échelle des prix, vous voyez quand même que l'échelle des prix est tout à fait significative. On n'a pas mis les prix des Chambertins ou des nuits, des côtes de nuit, mais on s'aperçoit que pour cette maison de commerce au Rissé, le pinot rosé valait à peu près le même prix qu'un grand Bourgogne. Vous voyez donc que dans l'échelle des prix, la hiérarchie des vins, une hiérarchie très, très marquée.
Alors voilà des étiquettes anciennes, grâce toujours à l'aimable collaboration des vignerons des Rissé qui sont allés chercher dans leurs papiers, leurs archives, dont une superbe étiquette manuscrite, quasiment calligraphiée, rosé, pinot rosé 1887, et là, de l'entre-deux-guerres, Chanzeux, alors c'est toujours une des contrées les plus renommées des Rissé, 1934. Par un propriétaire des risques. Alors ce vin qui vient de loin, il revient de loin parce qu'il était en perdition au début du XXe siècle. Alors je vous ai montré pour les registres de cette maison de commerce en 1907 du reliquat, parce que 1907, le vignoble des Rissés est absolument dévasté, a été dévasté par le phylloxéra. Hein, cet immense vignoble qui faisait plus de 1500 hectares en 1850, il est réduit à... Voilà. Il est réduit à la veille de la Première Guerre mondiale à 260 hectares et il ne cesse de dépérir, il continue à dépérir jusqu'à 170 hectares en 1945, ce qui le met en perdition, car dans l'intervalle, au terme d'une bataille héroïque qui a son paroxysme avec les révoltes de 1911, donc le vignoble du sud de l'Aube a réussi à conquérir, à imposer sa réintégration dans le vignoble, dans la Champagne viticole. Et la citation que je fais là, le négociant marmé ne fera pas de déplacement, ça vient d'une assemblée générale du syndicat général des vignerons de Champagne de 1950, hein, qui constate que le vigneron au bois est au bord du gouffre. Non, c'est Macart qui dit ça, mais c'est plus important. Président du Président. C'est-à-dire que la production de raisins pour le champagne effervescent est menacée d'extinction pure et simple. Et c'est là que je passe la parole à l'éminent vingtiéniste.
Donc on arrive dans un contexte, une situation, vous avez compris, il y a un double marasme. Il y a un marasme général du vignoble et un marasme encore plus accentué de ces vins tranquilles. Sauf que dans certaines régions de l'Aube, il y a une résistance des vignerons. Tous ne sont pas partis. Beaucoup d'émigration, beaucoup de fin d'activité. Dans la vallée de la Seine et de la Laigne, il y a une résistance plus forte qu'ailleurs. Mais cela dit, les tentatives de champanisation, les batailles que les vignerons ont menées pour être dans l'appellation Champagne, dans l'immédiat, c'est-à-dire dans les années 30, la guerre, ne rapporte pas grand-chose. Pourquoi, Claudine vient d'évoquer, le négoce qui est essentiellement centré dans la Marne, ne vient pas faire 150 km à l'époque pour ramasser des vignes, des raisins, alors même qu'il y a un marasme général, y compris dans la vente de champagne. C'est la raison pour laquelle, dans le contexte de la guerre et de l'occupation, alors il n'est pas temps de rappeler dans le détail ce qu'a été l'occupation allemande, la collaboration franco-allemande, on peut dire que dans le domaine du champagne, il y a une collaboration qui a, en quelque sorte, porté ses fruits pour un certain nombre et de négociants et d'intermédiaires allemands. Il y a eu de bonnes affaires et faites. Mais on est dans une économie taxée, réglementée, avec un système de réquisition et de prix qui sont des prix fixés par l'administration. Pour les vins courants, dans ce contexte, Orissé vient l'idée de faire que ce vin, le rosé, dans une situation de marasme, eh bien, puisse prétendre à un classement, ce qui le ferait échapper, pour une part, au prix taxé les plus bas et à la réquisition. Et de sorte que pendant cette période, il y a un premier effort pour présenter un dossier qui va être présenté à ce qu'on appelle à cette époque le Comité national des appellations d'origine, qu'on a appelé après, qui s'est appelé l'INAO. Et il se trouve que, comme on l'a mis là sur le document, conflit de légitimité entre l'INAO, le CNAO et le CIVC, c'est-à-dire l'organisation champenoise, et l'Hérissé se trouve pris un peu en tenaille là-dedans. Et leur dossier est repoussé. Leur dossier n'est pas pris en considération, même s'il est bien construit, même s'il apparaît intéressant, il est reporté. Et c'est dans cette ambiance, après la guerre, à la libération, la situation est une situation très difficile pour tout vignoble au bois, parce que en 1927, quand les vignerons de l'Aube avaient été finalement acceptés dans l'appellation Champagne, il y avait une condition qui avait été admise, c'est de transformer l'encépagement. L'essentiel des cépages qui étaient plantés dans l'Aube, c'était du Gamay. Et il avait été dit qu'il y aurait 20 ans de moratoire, 20 ans de délai, au-delà duquel, eh bien, les vignerons de l'Aube ne pourraient plus fournir de la matière première pour faire le champagne. Or, 1945 arrive, et 1945, vous voyez, c'est 2 ans avant les 20 ans, par rapport à 27, et l'essentiel du vignoble de l'Aube est encore en Gamay. Orissé, il y a plus de pinot qu'ailleurs, mais il y en a à peu près la moitié. Et donc la question va être une question globale, c'est comment obtenir un nouveau délai. On n'entre pas dans les détails, il y a un nouveau délai qui va être obtenu, mais dans une négociation très serrée. C'est dans cette ambiance qu'est présenté le dossier du rosé d'Hérissé. Il est présenté par des vignerons nouveaux ou un peu renouvelés. Vous savez que la période de Vichy, on a supprimé les syndicats, comme on a supprimé tous les partis politiques et toutes les organisations professionnelles pour faire une organisation désignée par le préfet, par les autorités. Il n'y avait plus d'élection, on était dans un régime autoritaire à coloration fasciste. Et à la libération, c'est le syndicat reconstitué et la coopérative qui vont porter le projet. Et ce projet ressemble beaucoup à celui qui avait été préparé, en fait, pendant la période de l'occupation. Mais le contexte a changé. Les vignerons qui vont faire partie de la délégation pour classer les vins vont, au contraire, être impressionnés par la proposition que présentent les vignerons et le syndicat et la coopérative. Qu'est-ce qui va être décidé? Il va être décidé après plusieurs années, 2 ans, un cahier des charges qui est défini en 1947, et il est décidé qu'à l'intérieur de l'appellation Champagne, on va choisir les meilleurs terrains, les meilleurs coteaux pour faire le rosé. Et vous voyez, on arrive à une délimitation de 350 hectares sur les 800 qui était classée. Mais en fait, elle avait planté beaucoup moins. Hein. On avait à ce moment-là une plantation qui était de 150 à 170 hectares.
Ça donne la mesure de l'espoir mis sur
et alors, ce qui est très curieux, ce qui est très curieux, c'est qu'ils obtiennent, les vignerons d'Hérissé, la possibilité d'avoir majoritairement du pinot, mais un appoint en gamay. C'est curieux. En fait, et aussi du sabanien ou du sevigné rose à proportion de 25%. En fait, pour comprendre ces attendus, il faut évidemment se renvoyer à la situation que j'évoquais tout à l'heure. Tout est pas encore replanté en pinot. On ne rentre pas dans le détail, sinon que le cahier des charges impose des rendements maximum plus limités, moins de gros rendements que pour le champagne, et aussi un pressurage et moins important. Avec un certain nombre de caractéristiques concernant les moûts qui n'étaient pas exactement les mêmes choses que les champagnes. Ce qui va provoquer évidemment des distorsions, puisqu'il faudra que les vignerons choisissent, soit on fait du rosé, soit on fait du champagne. Et ça va se passer plus ou moins bien. Ça va se passer plus ou moins bien parce que pendant ce temps-là, le champagne commence à démarrer. Vous savez que pour l'aube, on peut dire que l'essor du champagne, c'est la fin des années 50. Après les grandes gelées, les grands troubles de la viticulture de 56 et 57, les vignerons replantent, ils replantent en pinot, ils ont un moratoire, ils ont une date butoir qui est 62, après c'est réglé, ils ne pourront plus vendre les raisins pour faire du champagne, et donc le conseil général, le syndicat aident les vignerons pour replanter, et ça va assez vite. Alors pourquoi ça a un effet évidemment sur le rosé, c'est que dans cet effort, les vignerons du village Hérissé, ils vont privilégier évidemment l'investissement du côté de la replantation des pinots et la vente des pinots aux maisons de champagne qui là s'intéressent, qui viennent dans le coin pour acheter ces raisins, et le rosé commence à diminuer, et surtout il y a un certain nombre de difficultés pour faire en quelque sorte enregistrer le moment où les vignerons vont décider de faire du rosé ou pas. Il y a un procès qui est fait aux vignerons par les fraudes, par le service des fraudes, en 1967. Ça commence à tous 5 ans. Et vous voyez, c'est très dur pour ces vignerons. Ils sont vraiment accusés d'avoir fraudé parce qu'ils ont mal déclaré. Ils ont fait mal déclaré du point de vue de l'administration. Le choix qu'ils avaient fait, soit qu'ils feraient du rosé, soit qu'ils feraient du champagne. Finalement, la décision qui va être prise, ça va être de modifier le décret fondateur pour aligner complètement la situation du rosé d'Hérissé et du champagne. En gros, pour simplifier, je dirais qu'il n'y a plus que du pinot pour faire du rosé d'Hérissé, et que d'autre part, les rendements, les normes sont alignés sur... les mousses sont alignées sur le champagne. À partir de là, les vignerons d'Hérissé, un certain nombre, quelques-uns, vont essayer de maintenir la production de vin d'Hérissé. Il y en a très peu qui font du vin d'Hérissé tout seul. J'en connais un, la maison...
C'est le papa de mademoiselle.
Pascal Morel se lance en interviewant, j'ai fait beaucoup d'entretiens, vous verrez dans le livre, où une partie des informations qu'on a, on ne peut les avoir que par les entretiens avec les vignerons et leurs archives. En quelque sorte, la production de vin et la production de champagne dans le vignoble, la production de champagne commence à se développer dans les années 70. Jusqu'alors, les vignerons livrent les raisins. Il y a la coopérative des Rissés qui est importante parce qu'elle joue un rôle d'initiateur, de formation à la vinification, se lance aussi dans la champanisation. Mais la vinification du rosé restait une vinification liée à des traditions, à des vignerons indépendants qui, d'ailleurs, faisaient ça parfois à part, à côté du reste, et vont maintenir un peu la tradition, puisque une partie du savoir-faire de ce vin est un savoir-faire qui ne s'apprend pas dans les lycées viticoles, qui ne s'apprend pas encore aujourd'hui dans les diplômes d'œnologie, mais qui se transmet bien plus par l'expérience et le travail sur place. Alors, c'est la caractéristique qu'on a mis là, qui est reprise dans le décret, c'est que ce vin est un vin qui va, en quelque sorte, où tout va se décider dans les premiers jours de la récolte, après la vendange. Vous le voyez, macération, saignée de décuvage, ça veut dire qu'on va, après un cuvage très court, avec des raisins en grappe entière, hein, toujours, avec un peu de vin de jus dit de presse, un mélange, on va au goût décider de décuver, c'est ce qu'on appelle aussi la saignée, c'est-à-dire on va... Il y a une photo un peu plus loin. Attends, je vais y arriver comme ça. Hein. Voilà la couleur.
Voilà la superbe saignée de décuval. Voilà le vin vermeil du voilà. 21e siècle.
Voilà. Donc, Claudine, on va reprendre la parole plus tard pour parler de tout ça. Mais sans entrer dans tous les détails, donc relance de l'appellation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, après on va avoir l'occasion de discuter, j'en garde l'heure pour être vraiment raisonnable, je vous ai promis à l'exposé d'une heure, puis discussion. Si on prend l'évolution de la production, elle est faible, cette production, elle connaît des fluctuations. Dans les années 60, là j'ai pas mis de chiffre parce que j'ai pas mis de barre à cet histogramme parce qu'il y restait deux ou trois producteurs au milieu des années 60. Cinq, on avait à peu près cinq au moment du procès, cinq vraiment producteurs, quelques-uns qui en faisaient de temps en temps, très peu. Et puis ça va reprendre dans les années 80 avec la création d'un syndicat. Qui anime tout cela, avec aussi un certain nombre d'acteurs de ce vignoble qui vont jouer un rôle. Je ne l'ai pas mis là, je l'ai sur une clé. Une émission qui joue un rôle important, une émission littéraire, c'est pour ça qu'il faut en parler, une émission littéraire à la télévision. Les plus anciens ici s'en souviennent peut-être, il y avait une émission qui était animée par Bernard Pivot et qui s'appelait Apostrophe. Alors, à la fin de l'année, chaque année, Bernard Pivot faisait une soirée présentation de livres de fête, les livres de Noël. Et pour l'année 86, l'année 86, ah bon, voilà, l'année 87, Bernard Pivot présente des vins, on a retrouvé dans le livre, on a fait la transcription de la discussion. Il dit là, il y a un vin, il ne connaît pas bien, un vin de Rissé.
Dérissé.
Dérissé. Oui, il ne connaît pas. Et il y a un monsieur, monsieur Boutas, qui est un géographe, qui présente un atlas des vins. Et là, on va présenter et faire déguster le vin rosé d'Hérissé qui vient de la maison Bonnet, Alexandre Bonnet, et qui va d'un seul coup, évidemment, mettre un éclairage. À l'époque, il n'y a pas beaucoup de chaînes de télévision, donc beaucoup de gens regardent cette émission, et ça a un effet, évidemment, de levier en termes de communication considérable. Et si vous regardez la courbe de production, vous voyez qu'à la fin des années 80, vous avez une envolée. On va arriver là, à peu près, à un niveau qui est les 100 000 bouteilles. Les 100 000 bouteilles qui vont redescendre dans les années 90, qu'on va retrouver dans les années, au tournant des années 2000, puis qui vont redescendre. Aujourd'hui, on est dans des chiffres qui sont entre 60 000, 50 000, 60 000 bouteilles, à peu près, annuellement. C'est la même chose en exo, c'est pas la peine de dialoguer trop. Voilà, donc l'originalité de ce rosé tient au découpage. Ce que Claudine vous a montré avec tout l'enthousiasme qui la caractérise, c'est un.
Bah, c'est bien la couleur du tableau des Lenins, ça.
Voilà, c'est, si vous voulez, on n'a pas un esprit localiste ni boutiquier, c'est pas du tout ça, mais aujourd'hui, quand vous entendez parler de vin rosé, et que notamment des touristes étrangers viennent en France boire du rosé, choisir du rosé, même les Français aussi d'ailleurs, qui restent en France, pour eux le rosé est associé à quoi? Bon, au tourisme, au midi de la France, et à des vins, au-delà de ça, à des vins qui sont extrêmement diaphanes, de très faibles couleurs, de faible consistance, et qui se boivent effectivement d'une certaine manière. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ce type, évidemment, ce type de breuvage n'a qu'un lointain rapport avec le rosé dont on parle. Ce qui fait d'ailleurs que dans beaucoup d'entretiens, beaucoup d'interrogations des vignerons sur l'appellation elle-même. Comment faire pour se faire comprendre tant qu'on n'a pas goûté ce vin, et quand on voit la couleur, il y a une surprise qui est une surprise qui, au départ, n'est pas une surprise favorable, mais qui est une interrogation. Il s'agit-il vraiment d'un rosé? Il y a tromperie sur la marchandise, on est ailleurs, effectivement. On est sans doute ailleurs, on est dans le rosé d'Hérissé. Alors, là, c'est un résumé des chiffres qu'on a évoqués tout à l'heure sur l'évolution du vignoble, qui est un peu celle de tout le vignoble de la Côte des Barres, hein. C'est pas spécifique au Hérissé. Quand on a fait ce livre, on a voulu le resituer dans le vignoble de la Côte des Barres. Maintenant, on s'engage dans une histoire du vignoble de la Côte des Barres, on peut vous l'annoncer, pour l'année prochaine. Et là, on présentera l'ensemble des villages de tout vignoble, et pas seulement d'Hérissé. Mais pour l'heure, c'était pour montrer le lien qu'il y avait entre, évidemment, la situation d'Hérissé et l'évolution de la Côte des Barres. Là, Claudine, c'est un petit plaisir. Ah, vas-y.
C'était pour comparer avec quelques autres micro-appellations, un peu confidentielles aussi. Donc, le premier qui m'est venu à l'esprit, c'est parce que c'est la même région, puis c'est un peu les mêmes filiations, c'est le Gris de Toul. Alors, le Gris de Toul, donc, qui a été VDQS puis avancé, qui comprend 90 hectares répartis sur 8 communes et qui inclut dans les cépages autorisés le Gamay qui fait aussi partie de l'histoire. Mais
bon, mais plus proche, c'est le Tavel, qui est plus proche.
Premier rosé de France, parce que c'est la première AOC reconnue rosée. Et que la délimitation parcellaire inclut dans le cahier des charges que la production soit exclusivement faite en rosé.
Mais c'est un vin d'assemblage, c'est un vin sur plusieurs communes, c'est un vin d'assemblage.
On ne sait pas jamais.
Oui, on est dans une autre. Voilà. Mais par contre, la vinification se rapproche, et la cuvaison cuve, maison courte, etc.
Par saigner en majorité.
Voilà.
Et la dernière, alors c'est moins confidentiel, mais c'était pour. Qui m'est venu à l'esprit par comparaison, c'est par fidélité à la tradition de la palette des vins anciennes, c'est le Bordeaux Clairet, hein, qui a tenu à conserver ce terme de Clairet. Et voilà, c'est pourquoi j'ai tenu à dire. Les précisions très fermes données par le marquis de Bursalus. Alors, le marquis de Bursalus, c'est Château-Yquem, hein, c'est quand même un bon connaisseur, mais qui était membre du comité directeur de l'INAO, et qui précise avec force, quand même, dès cette époque, hein, dès 51, il ne faut pas en faire un vin rosé.
Voilà.
Donc, il y avait déjà les rosés de Provence qui étaient, qui commençaient à monter en puissance, et donc il fallait préserver ce terme baptisé par l'histoire de vin clairet qui venait du Moyen-Âge.
Bon, le reste, je pense que c'est des compléments, hein, ça, oui, ça va. Oui, oui. Moi, je voudrais dire un mot de, aujourd'hui, la manière dont nous, on a perçu ça, la manière dont les vignerons, la collectivité des vignerons, pour autant qu'il y ait une collectivité, mais quand même, il y a un syndicat, des vignerons du Rosé d'Irissé, on les a presque tous vus, c'est grâce à eux qu'on a pu travailler et faire ce bouquin. Il y a un syndicat sur une section du syndicat général des vignerons plus large sur la commune, et puis il y a tout l'ensemble des producteurs. Si on inscrit le Rosé d'Irissé à l'intérieur de tout ça, c'est une petite fraction, le Rosé d'Irissé. Mais on est frappé par le fait qu'aujourd'hui, une grande partie des viticulteurs ne font pas du rosé d'Irissé, mais une grande partie des viticulteurs qui fabriquent du champagne, eux, maintenant, se sont mis à faire du rosé d'Irissé. Même si ce rosé d'Irissé n'est pas leur activité, loi s'en faut, principale. Comme si faire ce vin, le rosé d'Irissé, c'est une formule, hein, mais est un peu une signature, la démonstration d'une capacité à vinifier de façon personnelle, originale, ce vin, les vins. Et d'autre part, l'autre caractéristique, c'est que le rosé d'Irissé, même s'il peut venir d'assemblages parcellaires différents, il est sur un seul cépage, du pas, et la tendance se développe à l'intérieur du vignoble, notamment d'Irissé, des viticulteurs, mais aussi de du rosé, à faire des cuvaisons et des cuvées qui sont liées au parcellaire, qui sont liées au terroir. C'est-à-dire la valorisation du terroir, des lieux, les contrées, est quelque chose qui se développe alors qu'il y a...
Il y a un monsieur montré, là.
Voilà. Il y a une quinzaine d'années, c'était même pas d'actualité. Donc, paradoxalement, ce vin qui est un peu un vin, disons, de niche, un vin très spécial, est connu d'ailleurs souvent beaucoup plus loin que dans la région, à l'échelle internationale, parce qu'il est très spécifique, très original, et en même temps, maintenant, dans les achats, dans les comportements d'achat, on voit souvent des gens qui viennent au Rissé acheter du champagne pour en même temps acheter un peu de rosé d'Irissé. Alors, il y en a qui achètent plus que d'autres du rosé d'Irissé quand ils le connaissent, mais un peu il y a cette signature, cette originalité de cette commune. Si vous me demandez pourquoi il n'y a que au Rissé, eh bien je ne vous répondrai pas maintenant, mais ça sera dans la discussion. Parce que certains jalousent évidemment l'Irissé d'avoir eux seuls cette appellation, alors que non loin, on fait des vins d'aussi grande, de bonne qualité, y compris dans les bars aux étrangers, évidemment. Merci. Alors, vous voyez, on a tenu notre engagement d'une heure pour avoir un peu le temps de la discussion, si vous souhaitez. Et comme je suis sûr qu'il y a, j'en connais un certain nombre, des connaisseurs et des personnes intéressées par, pas simplement le vin, parce que c'est un travail d'histoire, vous avez bien vu. Et pour éviter de répéter toujours les mêmes choses dans ce domaine, il faut aller chercher des archives, il faut aller faire de la documentation, il faut trouver du monde avec qui dialoguer. C'est pas si simple que ça, hein, le travail de recherche. Même si après, on veut pas encombrer le lecteur avec de l'érudition exagérée, mais il faut quand même... et je dis ça parce que maintenant, on est engagé dans notre projet sur... le vignoble de la Côte des Bars, et que comme nous avons affaire à un auditoire à la fois fourni, et on vous en remercie, et en même temps, je suis sûr, connaisseur de la région, que si vous pouvez nous aider pour notre projet sur le vignoble de la Côte des Bars, nous serons très honorés et très contents. Donc, cette parenthèse étant terminée, pour vous permettre de préparer vos questions. Allez-y.
Les critères, en fait, les critères. critères pour obtenir l'appellation d'hérissé. C'est d'abord le territoire, c'est-à-dire l'hérissé, et le terroir après, parce que c'est pas la même chose que pour le champagne, je n'ai rien compris, parce que le champagne, il y a des critères, ensoleillement, terre, etc., alors que l'hérissé, ça reste un milieu gaulois qui a son appellation, puis sur quel critère il y a.
Ah, c'est Gaul, le Finard. Le Finard, c'est plus de 4000 hectares, et l'appellation champagne, c'est 866 hectares. Et l'appellation rosé d'hérissé, elle est dispersée dans le parcellaire d'appellation champagne.
D'accord, elle est dispersée, mais elle s'est faite sur quel critère, les coteaux
Je t'ai dit, les coteaux les plus pentus, les plus ensoleillés, les plus élevés.
Je reprends précisément, parce que là, ça a été une grande discussion, les archives nous ont montré que c'était très compliqué.
Exactement,
oui. Tu t'en bats, mais c'était compliqué. Hein? Ah non, mais c'est normal, c'est nature. Dans la délimitation de l'appellation rosé d'Hérissé, en 47-48, évidemment, à ce moment-là, certains, c'est comme toujours, aujourd'hui, regardez pour ceux qui sont au courant, pour ceux qui pensent à l'extension d'appellation champagne ici ou là, il y a c'est Perrette et Bourdelais, il y a des rêves, hein, ça va être formidable, on va avoir des grandes, formidables. Même en 47-48, il y a certains qui pensent que si ça va être classé en appellation rosée, ça va être formidable. Donc, ils ont tout classé, parfois, les fonds de vallée, des replats, et donc, on va supprimer tous les fonds de vallée, on va supprimer les replats au-dessus, et ainsi de suite, pour ne garder que les meilleurs terroirs exposés. Mais l'originalité aujourd'hui, c'est pas celle-là. L'originalité, c'est qu'il y a 350 hectares classés pour faire de l'appellation rosé d'Hérissé, et qu'il y en a, je parle sous le contrôle des vignerons du Savillat, mais à peu près moins d'une cinquantaine qui sont utilisés pour faire du rosé d'Hérissé. Vous voyez, donc il y a une grande réserve. 50 hectares qui fonctionnent, et il en reste 300 qui pourraient être utilisés pour faire du rosé d'Hérissé. Donc il n'y a pas de pénurie de ce côté-là. Et alors le choix, c'est beaucoup de travail. Quand on interroge les vignerons, ils disent on gagne en bien avec le rosé d'Hérissé. Bon. Donc, je vous dis, quand on les interroge, ils me répondent. J'ai pas dit que notre travail, c'est de enregistrer et après on croise ça avec d'autres éléments. Hein, on a bien compris. Mais c'est vrai que le travail pour faire vieillir ces vins, je ne vous ai pas parlé concrètement combien de temps il avait été décidé de conserver ces vins avant des. Il n'y a pas d'obligation pour les mettre sur le marché. Mais plutôt quand même 2 ans, c'est mieux que de les mettre tout de suite sur le marché. Et donc il faut immobiliser un petit peu. C'est un travail qui est spécifique. Et le prix de ce rosé est à peu près indexé sur le. Comme c'est les mêmes, le prix du raisin est le même pour le champagne et pour le rosé. Donc ça donne un prix de rosé qui au départ est un prix qui ne pas être attractif pour l'acheteur habituel de rosé. C'est-à-dire que si vous commencez la gamme des rosés, vous commencez le prix à mettons, 15 euros ou 16 euros, vous voyez que vous avez un prix de départ qui fait que pour le même prix, au départ, les gens ont leur bouteille de champagne. Quand ils ne sont pas connaisseurs, quand ils viennent, etc., vous voyez, tous les vignerons m'ont dit, en fait, on ne fait pas plus d'affaires en vendant ce rosé, mais il y a un savoir-faire, mais il y a aussi un goût, d'où la formule, on fait un vin de passion. Et je vais rajouter quelque chose qui me frappe, moi, c'est que les jeunes vignerons, jeunes, bon, à notre échelle, c'est-à-dire que, ouais, tout jeune, mais enfin, les moins de 40 ans, ce que j'appelle les jeunes vignerons, ceux qui ont une formation professionnelle, non seulement en lycée professionnel, mais aussi à l'université, soit en BTS, soit en licence d'œnologie, beaucoup dans le Marseillais, je ne parle pas pour lycée, beaucoup ont fait leurs études à Dijon, à Beaune,
et ils ont un plaisir, et ils ont un plaisir à vinifier de façon spéciale, spécifique, les parcelles à rechercher le terroir. Ce qui n'est pas la qu'on pourrait appeler l'expérience la plus courante dans la formation, dans d'autres centres de formation œnologique en Champagne, où on privilégie la constance du goût, l'assemblage, des choses de ce genre, pour simplifier. Donc ça joue aussi. Ça joue aussi, ces jeunes vignerons ont envie de montrer leur savoir-faire.
Non.
Voilà. Une réponse un peu développée sur une question qui était courte, mais profonde.
Est-ce qu'on pourrait dire que l'émergence du rosé hérissé, c'est aussi une valeur d'exception, puisque aujourd'hui on est dans un monde où on va plus vers la rareté, la qualité, l'exception, que par l'uniformisation, comme dans les années 60, on allait plutôt vers une uniformisation.
Il y a plusieurs, ça c'est l'évidence, on va en parler, dire comment les consommateurs, les clientèles évoluent. Moi, il me semble que vous avez tous en mémoire qu'en 40 ans, la consommation du vin, la production du vin en France a diminué de moitié. Des années 70 à nos jours, même 80, mais la baisse est très très forte. Et la manière de consommer les vins, ça va dans le sens de ce que vous dites, n'est plus la même. Consommation intermittente, consommation beaucoup plus, en quelque sorte, liée à la gastronomie aussi, ou à la dégustation. Donc, ça va dans le sens que vous dites. En même temps, l'autre élément, c'est que les vins, la connaissance des vins passe par des supports de communication, par des systèmes aussi de... Alors, bon, maintenant, il y a les formes modernes, très modernes de communication, mais il y a quand même les réseaux, les grandes surfaces, et donc le problème de l'achat, de la mise en place des vins. Et là, quand vous avez un vin qui est de petite quantité, il est handicapé pour se faire connaître par ces réseaux. Il faut donc qu'il y ait d'autres réseaux, que ce soit les services, par le tourisme logique, le no-tourisme, voilà, vous voyez, il y a des transformations considérables de ce qu'on pourrait appeler la culture et la consommation des vins. Hein, ça c'est... Et je pense que le rosé d'Hérissé participe de ça, peut-être, au niveau.
Monsieur Lamoureux. Tu permets, Serge, pour répondre un petit peu à la question de Carnot Lamoureux, je suis vigneron au Rissé, mais je ne produis pas. Donc, je vais vous dire ce que j'entends. Si vous
ne produis pas le rosé.
Le rosé, pardon. Donc, en fait, moi, je pense sincèrement que le rosé d'Hérissé, comme vous l'avez pressenti, c'est un vin d'avenir. Aujourd'hui, on lit dans toute la presse spécialisée que les rosés reconnus, comme le Tavel et autres, cherchent à monter en gamme, en quelque sorte, et faire des rosés de garde. Alors, en fait, ils ont fait toute leur clientèle quasiment moderne sur des rosés qui se consomment assez vite, d'où la couleur, enfin bref, on va revenir dessus. Mais aujourd'hui, les producteurs cherchent quelque chose de plus identitaire et qui se conserve, mais en fait, c'est tout à fait ce qu'ils essayent de faire, en fait, c'est un peu les critères de rosé d'Hérissé. Aujourd'hui, donc, par la force des choses, il y a une corrélation qui va se trouver avec celui qu'on produit déjà.
Mais ils ne savent encore pas.
Les femmes aiment le rosé. Ça aussi, vous avez une ouverture pour la
conversation. Je suis pas sûre que la consommation féminine à elle seule puisse expliquer l'ascension vertigineuse de rosé aussi.
Du point de vue de l'analyse sociologique et de l'étude de marché, c'est certain que une grande partie des achats de vin sont faits par les femmes. Et deuxièmement, il y a eu ce que évoquait Arnaud Amoureux et que Claudine n'a pas encore dit, mais parce que si j'avance là-dessus, je sens qu'elle va partir. Il y a eu pendant 20 ans une mode des vins tanniques forts qui était, vous avez entendu parler, vous connaissez par cœur, vous connaissez le goût des vins boisés, etc. Or, aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, depuis une petite dizaine d'années, il y a une évolution des goûts vers des vins plus fruités, plus diversifiés, ayant un rapport au terroir qui soit plus explicite. Et donc, si on croise les deux, ce que vous dites, madame, à propos du goût féminin des vins, moins tanniques,
le fait qu'elles aient été porteuses pour une part aussi de la, d'une certaine propension du côté des rosés, bien ça va dans le même sens que disait Arnaud Amoureux, c'est-à-dire que le rosé d'Hérissé se situe dans un créneau, un secteur qui n'est pas un secteur sans avenir. Je suis toujours prudent, vous voyez. Voilà, Claudine, je ne sais pas ce que tu penses de Martinique.
J'ai horreur de ça.
Qu'est-ce qu'il y avait ? Quelqu'un avait demandé la parole ? Monsieur, oui.
Non, moi ce qui me gêne, c'est le mot rosé, parce que quand on entend le mot rosé, on va le boire frais, on va le boire l'été, etc. Alors ça, c'est un vin. C'est d'abord un vin. Et je le classerais vin rouge rosé. Voilà. Mais je veux dire, après, au niveau de la dégustation, il ne se boit pas frais, il se boit à la température de la pièce.
Sans glace.
Voilà. Et si vous mettez ça sur la table avec n'importe qui, bah, vous faites des glaçons, il va vous penser que c'est du vin. Il y a un problème avec ce vin.
Je vais vous dire.
Plus que la température du vin avec, les viandes. Quelle viande on peut mettre avec si on mange de la viande, par exemple? C'est plutôt des viandes douces, pas des viandes. Pas du gibier. Voilà.
Attendez, écoutez, c'est une bonne discussion. C'est simplement pour vous répondre, pas en termes d'opinion, mais en termes de faits, de questions, pour poser une question que les vignerons d'Hérissé n'ont cessé de se poser ces dernières années, eux-mêmes. Parce qu'ils le ressentent, ce que vous dites. Ils le ressentent. J'ai fait un entretien avec quelqu'un qui a joué un rôle important dans l'histoire du rosé d'Hérissé, qui s'appelle René Bonnet, la maison Bonnet.
Serge.
René avait assisté à la thèse de Claudine. Voilà. Mais il ressemble à son père de façon extraordinaire. Bon, bah, Serge Bonnet, on discute de ça, il vient exactement sur la question que vous évoquiez, et beaucoup de vignerons, lui me dit ça, certains en tout cas, me disent qu'on devrait appeler ce vin du nom de la commune, comme on dit du Pommard, du Nuit-Saint-Georges, et du Chassagne, il peut être blanc, il peut être rouge, c'est la notoriété. Peut-être qu'un jour, la notoriété du vin permettra, en quelque sorte, d'identifier ce vin et ce territoire, et ce terroir, je pense. Pourquoi je dis ça? Parce que la procédure pour faire changer les dénominations des vins est extrêmement lourde.
C'est décourageant.
Voilà, et je sais que les vignerons ont commencé à voir combien de temps, et surtout, alors ils sont un peu adressés à nous, effectivement, nous on peut, par exemple, on vous a montré des étiquettes où en 1900 c'était marqué Pinot Rosé, hein, c'était pas Pinot Rosé déjà, ça serait une indication du cépage, Pinot Rosé d'Hérissé. Mais l'incertitude et la complexité pour changer d'appellation, le nom d'appellation, pour l'instant, a fait que tout le monde. Et avec cette difficulté que vous avez signalée, et qu'il faut connaître, et faire en quelque sorte de l'information, de l'histoire, pour peut-être après montrer comment ce vin s'apprécie. Voilà, un
peu. Parce que, pas moins dans le goût et dans la couleur et la transparence, vous avez une Pinot Noir d'Alsace.
Oui, mais voilà. Ouais. Une autre chose que je voulais ajouter, c'est qu'il me semble que ce vin, il évolue bien en cave. Enfin, moi j'ai eu ça. Et il change, hein. Alors qu'un rosé machin.
Alors, dans le livre, si ça vous intéresse, on a fait une. C'est les vitrons qui ont organisé une dégustation pour le 70e anniversaire. Une dégustation qui est une dégustation, comme on dit, verticale, c'est-à-dire sur toutes les années depuis 47. Je pense qu'il y a très peu de vins en France qui peuvent tenir une dégustation verticale sur 70 ans. Et pourtant, on l'a fait. Et c'était avec un sommelier d'un restaurant réputé des Crayères à Reims, hein, et qui a fait le commentaire. Et qui a fait le commentaire et qui lui-même était, pour dire les choses, il n'était pas seulement étonné, il était scié complètement. Hein, il était vraiment, il avait travaillé, il avait préparé le sujet, si j'ose dire. Mais les goûts de ces vins, effectivement, ne sont pas les mêmes quand c'est des vins de très bonnes années, il y a 10, 15 ans, 20 ans. Mais ils sont
buvables et ils sont très intéressants.
Ils ne sont pas seulement buvables, ils sont
arborisants. Oui, ils sont arborisants. Mais c'est pas du tout une, ils n'ont pas une qualité constante, ils évoluent dans le temps, ils vieillissent dans le sens du terme.
C'est pour ça que le mot rosé, ils
sont bêtes. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Voilà.
1947, c'est un millésime très réputé.
C'est une des années du siècle.
Oui.
Est-ce que l'année de naissance de l'AOC a un lien avec ça?
Non, je pense
pas. Le dossier était archi. L'avis favorable est donné en décembre 1946.
Voilà, voilà. Et
bon, mais alors, en le temps de la procédure juridico-administrative. Ça fait l'acte de naissance en 47.
Mais par contre, la question que vous posez, madame, a un lien avec celle que monsieur a posée avant, et je n'ai pas réagi assez bien. Parce que, en grande partie, l'AOC est donnée après dégustation sur place des vins, et on a retrouvé la liste des années, de 1919 à 1943. Et c'est là où il y a des gens, il y a des vignerons de la vallée du Rhône, de la vallée de la Loire, et ils seront complètement étonnés. Pour un rosé, capable de vieillir assez sur une vingtaine d'années, pour eux, c'est justement la preuve de la capacité pour ce vin de vieillir et qui a une vraie identité. Et donc l'année 47, non. Par contre, on a pu boire lors de la dégustation du 47 l'année dernière, vous voyez, et c'était tout à fait grandiose. Hein, les rosés d'Hérissé de 47, alors c'est un rosé dans lequel il y a du Gamay et du Pinot, et qui n'est pas le rosé de Pinot uniquement, comme on le connaît depuis le décret de 71, mais qui est quand même.
Moi, certainement, aujourd'hui,
oui.
Je ne retrouve plus le goût du rosé de mon enfance dans lequel il y avait du Gamay.
D'accord. Mais voilà.
Complètement différent.
C'est différent.
Et pour l'anecdote,
oui.
À l'époque, on recevait des personnes à la maison, on va dire très délicates,
oui.
Et on offrait toujours du rosier avec des biscuits. Ça, c'était le fin du fin.
Mais, oui, mais les champagnes aussi, ils se doivent avec des biscuits, biscuits roses, qu'ils voudraient boire, etc. Et vous, vous êtes dérissé?
De Baldo.
De Baldo. Ah, je vous ai tendu une perche.
Non.
Ah, voilà, voilà.
Je vous ai tendu. Vous dire.
Je vous ai tendu une perche parce que effectivement, il y a eu des débats, notamment parce que les finages sont contigus. Une partie des contrées qui servent à faire le rosé d'Hérissé sont très proches de Baldo, et donc, comme dans toutes les histoires des appellations et des vins, et bien d'autres. Il y a une dimension culturelle, il y a une dimension géographique, économique, et puis il y a une dimension politique aussi. Voilà. Et la bataille en 1947, pour la municipalité, le syndicat des vignerons d'Hérissé, etc., c'est de dire qu'il n'y a que les vignerons d'Hérissé, en plus, qui ne peuvent avoir accès à ça.
Les vignerons d'Hérissé organisés pour obtenir l'appellation, ont mis un refus formel à l'extension et y compris la vinification.
Oui, oui.
Hein? C'est seulement en 1971 que les communes strictement limitrophes ont eu le droit de vinifier. D'où est-ce que notre ami de Neuville a entendu parler aussi chez lui, en 1947, les vignerons d'Hérissé, y compris dans la presse syndicale, sont accusés de faire cavalier seul dans le marasme du champagne.
Bon, voilà, ouais. Nous, vous voyez, on est dans une situation où on est beaucoup plus à l'aise pour raconter toute cette histoire. En même temps, on a un attachement qu'on ne peut pas cacher pour ce vin et l'intérêt pour ce vin. Mais c'est une belle histoire avec un peu, beaucoup de lumière et un peu d'ombre aussi. Hein. Il y a, c'est ça l'histoire réelle. Hein. Donc, et on ne le dissimule pas. Sauf que c'est pas facile toujours à savoir parce que. Il faut l'expérience, il faut des témoignages comme le vôtre qui viennent. On retient votre témoignage. Et puis peut-être qu'on va bientôt arrêter.
J'ai eu la chance de faire une dégustation avec Pascal, son papa, de 1947 à 82, voilà, quelques dizaines d'années.
Et ce qui est impressionnant, c'est la tenue dans le temps de ce vin. Je pense que c'est dû à la vinification. Ben, le problème du rosé, c'est difficile à tenir les couleurs. Et il devient un peu tuilé, ce qui est tout à fait normal. Et là, c'est la composition de ma voisine. Pourquoi pas l'appeler vermeil?
Oui, voilà. Ah ben c'est ce que je voulais. C'est Serge a évoqué. Alors, la procédure pour changer l'appellation, hein, les gens, j'en ai parlé avec.